Radio Libertaire, c'est la radio libre de la Fédération Anarchiste, c'est l'émission lundi matin. Bonne fin de matinée à toutes et tous. Une petite chanson pour commencer, et celle-ci je voudrais la dédier avec une pensée toute particulière à l'intention de Christiane, là-bas dans son 18e arrondissement de Paris.
Dessous la cendre, le feu va te brûler. La nuit pourrait descendre dessous nos que d'autres bras tendus s'en vont strier nos aubes claires. Voilà que de jeunes cerveaux refont le lit de la charogne. Nous allons compter des pendus au couchant d'une autre après-guerre, et vous saluerez des drapeaux en priant debout sans vergogne. Amis, dessous la cendre, le feu va tout brûler. La nuit pourrait descendre dessus nos amitiés. La nouvelle chasse est ouverte, cachons nos rires basanés. Les mots s'effacent sous les poings et les chansons sous les discours. Si vos lèvres sont entr'ouvertes, un ordre viendra les souder. Des gamins lâcheront les chiens sur les aveugles et sur les sourds. Je crie pour me défendre, à moi les étrangers. La vie est bonne à prendre et belle à partager. Les massacres s'accumulent, votre mémoire s'atrophie, et la sinistre marée noire couvre à nouveau notre avenir. Vous cherchez dans le crépuscule l'espérance de la survie. Les bruits de bottes de l'histoire ne veillent pas vos souvenirs. La nuit pourrait descendre.
Voilà, Christiane, on a partagé ici avec toi et sur l'émission lundi matin sur Radio Libertaire cette chanson de Serge Huguet-Royau. De quoi sera-t-il question aujourd'hui ? D'une citation. Alors on le sait, les citations souvent nous parlent, nous font vibrer, et puis après la citation et cette vibration, émotion ressentie, il y a la confrontation avec la réalité. Et là, tout se complique. Et il en est ainsi, par exemple, de cette citation bien connue de Étienne de la Boétie. « Soyez donc résolus à ne plus servir et vous serez libre. » Après, le réveil sonne le matin à 6h ou 7h, ou plus tôt ou plus tard. Et c'est l'aliénation quotidienne à laquelle bon nombre d'entre nous sont confrontés. Ça sera pour tout à l'heure, 11h30, après la rubrique Agenda, se rencontrer, se voir, discuter, réfléchir, agir ensemble.
Un beau matin, un maudit matin, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Voilà que j'entends, en me réveillant, le pas pesant de l'occupant. Au loin vaguement s'élèvent des chants, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ces chants sont les chants de nos partisans, je m'en vais rejoindre leur rang. Car s'il faut souffrir le joug des tyrans, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Car s'il faut subir en serrant les dents, plutôt mourir en combattant. Si je suis tué comme un partisan, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Vous m'enterrerez là-haut sur le flanc de la montagne où je suis né. Je veux reposer pour l'éternité, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Je veux reposer à l'ombre rêvée, douce et légère, d'un églantier. Plus tard dans longtemps, un jour de printemps, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Plus tard dans longtemps, en le découvrant, s'émerveilleront des enfants. Que tous ces enfants, libres de leur chant, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Que tous ces enfants cueillent en riant la fleur aux pétales de sang. Cette fleur, parfum troublant, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Car cette fleur est la couleur du sang versé des partisans. Plus qu'un poème, plus qu'un emblème, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Plus qu'un poème, plus qu'une idée, nous l'appellerons liberté. Plus qu'un poème, plus qu'une idée, nous l'appellerons liberté.
Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho visto l'invasor.
Voilà, et c'est Michel Desproges qu'on vient d'écouter pour cette interprétation de cette célèbre chanson Bella Ciao. Il est 11h14, on va donc entamer donc la rubrique donc Agenda. Quelques rendez-vous à vous proposer. Et tout de suite, un rappel concernant le soutien que vous pouvez exprimer à Radio Libertaire. Comme je le rappelle chaque semaine, ça se passe sur radio-libertaire.org, la rubrique « Nous soutenir », où vous pourrez télécharger un bon de soutien vous permettant, si vous le pouvez, de soutenir la station sous forme d'un prélèvement automatique. Puisqu'on parle de la radio, tiens, il y a une nouvelle émission, je vais vous la signaler. C'est le quatrième samedi de chaque mois, de 11h30 à 13h30. Ça s'appelle Le Cri du Peuple. Une émission donc en référence au célèbre journal Le Cri du Peuple, créé par notamment Jules Vallès et Séverine. Journal qui paraîtra donc pendant la Commune de Paris, et ce jusqu'à la semaine sanglante. Donc littérature, politique, art, sujets d'actualité et de société y seront débattus. Donc le quatrième samedi de chaque mois à 11h30. Des rendez-vous donc à vous proposer pour donc les jours à venir. Notamment un rendez-vous proposé par le collectif Solidarité Kanaki. On s'en souvient, en 2024, au mois de mai, il y a eu une révolte, on peut même dire une insurrection, en Kanaki. S'en est suivi, évidemment, donc, une répression. Une répression même particulièrement féroce. 2500 gardes à vue ont été faites, 500 déferments en comparution immédiate, 200 mises en détention préventive, 500 peines alternatives également ont été prononcées, de nombreux blessés, et on s'en souvient, une douzaine donc de morts aussi pendant cette révolte. Et donc des prisonniers kanak qui sont aujourd'hui en France, ça veut dire que pour eux, eh bien, ils sont loin, très loin de chez eux, à des milliers de kilomètres, donc ça veut dire être isolé, isolé de son pays, isolé de sa famille, et donc il va y avoir donc ces prisonniers donc en audition. Alors ça va se passer plus précisément tout prochainement. C'est-à-dire les jeudis 23 mai, jeudi 22 mai, pardon, hein, mardi 27 mai, mercredi 28 mai et mardi 3 juin. Donc prisonniers donc en audition et rassemblement donc sur les dates que je vous ai indiquées devant le tribunal de Paris, donc c'est Porte de Clichy, et ça sera donc ces trois dates là 22, 27, 28 mai et 3 juin entre 9h et midi. Autre rendez-vous encore, et à ce sujet là d'ailleurs en faisant cette annonce je me rends compte à quel point une actualité chasse l'autre et que souvent le scénario est toujours un petit peu le même. Pendant la période de révolte, d'insurrection, on en parle, c'est dans l'actualité, et ce qui suit la répression en général, eh bien, est cantonné dans une forme d'oubli. Pas que, puisque on le voit, il y a une mobilisation. Un rendez-vous encore, ça sera vendredi, alors le 30 mai. Le 30 mai, à 19h30, au 9 rue François de Bergue à Montreuil. Et là, ça sera donc un documentaire qui sera projeté, qui s'appelle Guidam. Donc le 30 mai, hein, je l'ai dit, 19h30, La Parole Errante à Montreuil. Un documentaire de Sarah Bachellerie et Ahmad Gamal. En lien, en rapport avec la situation au Soudan. On connaît la situation au Soudan. C'est 13 millions de personnes déplacées, cette guerre qui a déjà fait plus de 150 000 morts. On avait parlé du Soudan dans l'émission à un moment donné, si vous en souvenez. C'était à propos de déclarations de nos camarades anarchistes soudanais. Donc, revenons sur cette soirée-là. Le film, donc, Guidam, sera projeté jusqu'au bout, en français. Un documentaire donc, qui retrace les trajectoires d'exil, les révolutions, les mémoires des luttes et les mouvements étudiants au Soudan, et donc les trajectoires de Soudanais exilés en France. Donc 9 rue François de Bergue, hein, je ne sais pas si j'ai donné l'adresse, de La Parole Errante donc, à Montreuil. On est un petit peu internationaliste hein, ce matin. On va parler donc du Chiapas, des Zapatistes. Ça sera samedi 31 mai, dimanche 1er juin. Là encore, à La Parole Errante, hein, un week-end de solidarité en mémoire de Samir Flores et en soutien. Le 31 mai, ça sera en mémoire de Samir Flores et le 1er juin, en soutien aux communautés zapatistes. Alors, Samir Flores, pour dire quand même un tout petit mot sur lui, c'est un militant activiste des radios libres et populaires qui a été assassiné à la porte de son domicile en plein milieu d'un référendum pour imposer la construction d'un méga-projet de gazoduc sur les terres historiques du zapatisme. C'est donc une journée mémoire, hommage donc pour ce militant. Ce militant des radios libres aussi, hein, donc ça devrait intéresser, je pense, à ce titre-là, mais pas seulement celles et ceux qui écoutent Radio Libertaire, celles et ceux qui la font aussi, bien sûr. Donc, deux dates, hein, donc un 31 mai en mémoire de Samir Flores, 1er juin en soutien aux communautés zapatistes, expo photo, projection, discussion pour ce week-end de solidarité internationale. Bar et petite restauration sur place, donc à la parole errante. Autre rendez-vous, encore un meeting unitaire contre les OQTF. Alors, OQTF comme obligation de quitter le territoire français. On se souvient, là aussi, une actualité chasse l'autre. Hein, et là encore, après l'événement même, c'est-à-dire le moment de lutte, de résistance, s'ensuit la répression. Et là encore, bien souvent, derrière, c'est l'oubli. Une actualité chasse l'autre, mais pas dans tous les esprits, puisque donc il y a ce meeting unitaire contre les OQTF qui va avoir lieu. Ça va être le 27 mai. Ce sera à 18h30 à la Bourse du Travail de Paris, aux 3 rues du Château d'Eau, dans le 10e arrondissement de Paris, non loin de la place de la République. Donc, trois mois après l'occupation donc par des mineurs isolés du collectif du Parc de Belleville de la Gaîté Lyrique, ça, tout le monde s'en souvient. On se souvient aussi de cette expulsion qui s'est faite fort violemment. Une vingtaine de blessés, 46 arrestations et 26 mineurs qui ont donc reçu des OQTF, donc obligation de quitter le territoire français. Et donc c'est un meeting unitaire contre les OQTF qui aura donc lieu le 27 mai, je vous l'ai dit, à la Bourse du Travail de Paris. Et puis enfin, un rendez-vous. Là encore, j'en avais parlé à l'antenne. Christiane de l'émission Chronique Rebelle l'avait reçu, tout comme la librairie Publico l'avait reçu. C'est Georges Valadas pour son livre qui a été publié récemment et qu'on peut trouver bien sûr à la librairie Publico, Itinéraire du refus. Donc un livre dont j'avais souligné l'intérêt, dont j'avais souligné aussi comment il m'avait touché. Si vous l'avez loupé sur Radio Libertaire, si vous l'avez loupé à la librairie Publico, Georges Valadas, eh bien, sachez qu'il sera présent à Ivry pour présenter son livre et en discuter le 28 mai à 19h à la librairie Envie de Lire, 16 rue Gabriel Péri à Ivry-sur-Seine. Et puis, également, au 145 rue Amelot, quand même, on va aller faire un tour à la librairie Publico, la librairie du monde libertaire, avec une belle expo hein, à voir. Alors vous le verrez, elle est sur les murs, c'est vraiment magnifique. Hein. Cette expo s'appelle Happy Fingers Pochoir, donc des grands pochoirs. Franchement, c'est voilà. De toute façon, vous ne louperez pas. Hein. Si vous passez à la librairie, impossible donc de les louper. Voilà, là il n'y a même pas besoin d'être curieux, ça saute aux yeux. Donc magnifique expo, hein, vraiment pour ceux qui aiment les pochoirs. Voilà, là c'est du grand art, on va dire. Hein. Donc, d'autres rendez-vous pour le mois de juin. Il commence à y avoir quelques rendez-vous pour le mois de juin. Le dimanche 8 juin à 16h, ça sera Guillaume tout seul en concert. Ça sera à 16h, comme d'habitude quand il y a un concert, l'entrée est libre, mais c'est participation donc au chapeau. On va l'écouter dans quelques instants, hein. Guillaume tout seul, pour une chanson, pour ma part, assez réjouissante, hein. Vous écouterez ça dans quelques instants. Le temps pour moi... de vous dire que d'autres rendez-vous sont disponibles, que vous pourrez trouver sur les sites Paris Lutte Info et Agenda Militant Indépendant. Du côté de la presse, je vais vous signaler la sortie du mensuel de l'Union Pacifiste, qui fait sa une sur une initiative à venir aussi, hein. On est encore un petit peu dans la rubrique Agenda là, hein. Guerre à la guerre, 20-22 juin, Paris, à propos donc d'un week-end de mobilisation contre la tenue du Salon du Bourget. Alors le Salon du Bourget, c'est ce grand rendez-vous mondial, ce grand salon mondial de l'armement, où chefs d'État, dictateurs, spécialistes de la répression peuvent se rencontrer pour ce business qui sert à tuer, à blesser, à mutiler, à surveiller. Donc une mobilisation, on aura le temps d'en reparler encore, c'est donc, mais vous pouvez déjà le noter, ça sera le 20 et le 22 juin à Paris, donc le Salon du Bourget. Du côté de la presse toujours, Chronique Noir et Rouge, j'avais oublié de signaler la sortie du numéro 20 du mois de mars, revue trimestrielle de critique bibliographique du mouvement libertaire. Dans lequel vous retrouverez deux critiques sur un livre que moi-même j'avais critiqué ici dans l'émission, enfin du moins sur lequel j'avais posé quelques questions et émis quelques avis, à savoir le livre de Thomas Ibanez, Repenser l'anarchisme. Et là, à travers deux articles, c'est Richard Wilf et André Bernard, Contre l'immobilisme et l'anarchisme est vivant, qui eux aussi à leur tour, et c'est intéressant, livrent une critique sur ce livre-là. Dans ce même numéro, c'est Charles Jacquier aussi qui nous invite à la lecture de la réédition d'un livre de Pierre Kropotkine, Mémoire d'un révolutionnaire, paru aux éditions Nada. Voilà, Kropotkine, qu'on a aussi appelé de façon, je trouve, un petit peu péjoratif, le prince anarchiste, et cela lié au fait qu'il était issu d'une grande famille de l'aristocratie russe. Et à ce sujet-là, et c'est cité donc dans l'article, alors que Kropotkine a passé plusieurs années dans le corps des pages, hein, donc qui préparait les fils de la noblesse russe à une carrière militaire de haut rang. Et à ce sujet-là, il déclara en 83, lors du fabuleux procès de Lyon, « Je suis entré à 16 ans à l'école des pages, et si dans la cabane des paysans j'avais appris à aimer le peuple, c'est à la cour que j'appris à détester les grands. » Donc, Mémoire d'un révolutionnaire, Kropotkine, c'est disponible donc à la librairie Publico. J'en profite pour rappeler l'adresse de la librairie Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris. Métro Oberkampf, République, Fille du Calvaire, voilà, comme ça vous savez tout. Est-ce que j'ai donné les heures d'ouverture? Je sais plus, je le redis, hein, ça sera peut-être une répétition. Donc mardi, vendredi, 13h-19h30, dimanche 13h-19h30, samedi 10h-19h30, fermeture le lundi. Donc vous y trouverez le mensuel de l'Union Pacifiste, Chronique Noir et Rouge, tout comme Le Monde Libertaire, le mensuel de la Fédération Anarchiste, ni Dieu ni Maître, hein, à la une de ce Monde Libertaire du mois de mai 2025. Et une date aussi, un rendez-vous que nous vous proposons, nous, l'émission lundi matin, le groupe Libertaire d'Ivry. Ça sera le dimanche 15 juin. À partir de 16h, accueil dès 15h, comme d'habitude, autour d'un petit verre, d'un café pour ceux qui le souhaitent. L'entrée sera libre, bien évidemment. Et c'est un film qui sera projeté. Un film de Yann Bey sur les violences d'État, réalisé en 2020, et intitulé ce film, ce documentaire, « À nos corps défendants », et on l'a sous-titré comme ça, nous, en disant « Le reportage sur le quotidien des policiers que vous ne verrez pas à la télé ». Parce que des reportages sur la police à la télé, on en voit plein, il y en a dans plein d'émissions, où des équipes de policiers, de la BAC ou autres sont suivis par des journalistes. Mais voilà, on ne voit jamais effectivement ce que propose ce film « À nos corps défendants ». On a intitulé cet après-midi-là « Le racisme dans la police », donc débat suivi d'une discussion, bien évidemment. Et sur la petite affichette qu'on a réalisée, enfin que Nicolas, plus précisément du groupe d'Ivry, a réalisée, il a mis en avant des noms. Avec Sylvie, ils ont fait ce choix-là de mettre en avant des noms, quelques noms, du moins Lamine Dieng, Babacar Gueye, Amadou Koumé, Ali Alexis, Adama Traoré, Abdoulaye Camara, Vassil Kreker, Wissam El Yamni, Zineb Redouane, Amine Mansouri, Amine Bentoussi, Laoussine Haït Omgar, et on pourrait égrener comme ça des noms. Les noms de toutes ces victimes de la police, des noms qui ont une consonance bien particulière, dont l'intitulé de la réunion, le racisme dans la police, avec en dessous tout ce qu'ont eu à subir les uns et les autres. Asphyxie, mutilation, tabassage, viol, harcèlement, coup de pied dans la tête, mâchoire cassée, étouffement. Voilà, ce sera donc le dimanche 15 juin, 16h. À la librairie Publico, la librairie du Monde Libertaire. Et sur l'autre site de la librairie, librairie-publico.info, je pense que d'ici peu, eh bien, vous retrouverez donc les programmations donc, de ce mois de juin qui est à venir. Donc, on l'a vu, hein, il y a donc Guillaume Toussaint, je vous l'ai annoncé, qui est donc programmé à la librairie Publico. Et je vous ai annoncé une chanson réjouissante, et c'est vrai que je l'ai trouvée très bien, cette chanson-là, et on va l'écouter tout de suite. Donc Guillaume Toussaint, une chanson qui s'intitule « Y'a pas ».
Y'a pas à se faire de bile, ne soyons pas débiles. Pas à se faire de mourons, soyons pas des moutons. Pas à se faire de chagrin, ne soyons pas crétins. Pas à se faire de soucis, soyons juste à la vie. Arrêtons le travail. Le travail, c'est la santé. Qu'on disait à nos grands-pères, on sait que cette absurdité. Qu'on dit à la misère, mais du travail, y'a pas. Y'a pas, y'a pas, y'a pas, y'a pas, y'a pas, oh, y'a pas, y'a pas, y'a pas, y'a pas. On est les déserteurs du turbin, on est les flibustiers qui se lèvent pas le matin, on est les francs-tireurs, franchement ça fait du bien, les pirates du travail, c'est comme ça on est bien. On est les crosses en l'air de la souffrance. On est les mécréants de la croissance. On est les partisans de la désobéissance. Les pauriens qui valent rien, toutes nos condoléances. Arrêtons le travail. Le travail, c'est nécessaire. On disait à nos grands-mères, on sait bien que ce truc débile nous mène de l'usine à l'asile. Mais du travail, y'a pas. Y'a pas, 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 y'a pas. De toute façon, du travail, y'en a pas. Alors ne brisez pas les noix, y'a pas, y'a pas. Ouais. De toute façon, du travail, y en a plus. Ouais. Ne les brisez donc pas, menu, y'a plus, y'a plus. Ouais. Et quand bien même il y en aurait, on voudrait pas y aller. On veut pas de vos 3-8, nous on veut vivre vite. C'est pas avec votre salaire que vous nous ferez taire. Si on veut bien s'y mettre, c'est pas pour se faire mettre. Quand c'est pour le plaisir, ça vaut le coup qu'on transpire. Nous on croit au partage, on n'est pas des gens sages. On veut bien faire la fête, vous voudriez qu'on arrête. On est contre la concurrence et contre l'esprit d'entreprise et contre la compétition. Sur nous tout ça n'a pas de prise. Arrêtons le travail. Le travail, c'est important, qu'on disait à nos grands-parents. On sait bien que cette bêtise leur a coûté leur chemise. Mais du travail, y a pas, 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 y a pas. Arrêtons le travail.
Voilà, Guillaume tout seul, donc il sera en concert, donc je vous l'ai dit, le 8 juin à la librairie Publico. Alors, le thème du jour, donc, oui, à partir de, c'est pas le sujet essentiel, mais à partir donc de cette célèbre citation. Parce que, où que nous portions notre regard, quand nos oreilles sont grandes ouvertes à l'actualité qui nous est donc déversée, qu'on regarde ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Ukraine, quand on écoute le bruit, la fureur de ces nationalismes qui montent un petit peu partout à travers le monde et à travers l'Europe, quand on écoute aussi ces militarismes qui se lèvent un petit peu partout, ici même, quand on regarde ce qui se passe, que ce soit ce réarmement militaire qui est en place, là aussi ce nationalisme qui monte, ce patriotisme qui monte, ce bruit de bottes, on va dire aussi, eh bien, ça nous touche, comme ça nous touche aussi tout ce qu'on encaisse et qui nous laisse un petit peu comme des boxeurs groggy, tant cela ressemble à un déferlement, qu'il s'agisse des attaques contre les retraites, qu'il s'agisse des attaques contre les minima sociaux, contre les salaires, contre le logement, contre les chômeurs, la situation faite aux sans-papiers, et... On pourrait allonger la liste, bien évidemment. Tout cela a cet effet de nous laisser un petit peu comme des boxeurs groggy. Hein ? Et c'est vrai que l'intoxication médiatique, est là. Et elle fait son effet. Alors, on parle du devoir d'informer, etc., etc. Mais il n'empêche que cette avalanche de mauvais coups qui sont portés, de mauvaises nouvelles qui arrivent à nos oreilles, ça agit. Alors on pourrait se dire que ça pourrait provoquer la révolte, que ça pourrait provoquer de la colère, etc. Ça le peut, mais bien souvent je note que ça provoque surtout chez bien des personnes une sensation effectivement d'être submergé, les mettant ainsi un petit peu dans ce que j'imagais de la façon suivante, un petit peu comme un boxeur groggy qui a un genou par terre tellement il s'est pris de coups et qui a beaucoup de peine à se relever. Et ça me renvoie à une discussion, et en fait c'est ce qui m'a donné l'envie de faire cette émission, c'est une discussion hier dans un café, avec un chiffre qui revenait toujours, 1023. Alors 1023, qui est revenu au moins 20 fois dans la discussion, c'était un jeune homme, et 1023, c'était son salaire brut. Alors, 1023 euros de salaire brut, on avait affaire indéniablement à un jeune prolo. Je ne sais pas quel était son métier. Et ce chiffre, 1023, revenait sans arrêt donc dans la discussion, et cela tout en évoquant son loyer qui était trop cher malgré l'aide de l'APL, les courses, le prix des aliments, le fait qu'il était en arrêt maladie, qu'il lui restait plus rien pour vivre, etc., etc. Avec ce chiffre, 1023 euros brut, qui revenait donc sans arrêt dans la discussion. Et puis, à un moment donné, dans la discussion, il a été question un petit peu de politique. Et j'ai dit à ce moment-là un petit mot pour avancer l'idée d'une solution et même d'un projet de société égalitaire et tout. Et il m'a dit très vaguement « Ah, ce serait bien, hein. Oui, ce serait bien ». Et puis, au mieux, dans la discussion avec d'autres, il a été imaginé, effectivement, le vote très populaire, hein, dans mon coin, le vote LFI, la France insoumise, énoncé comme étant le vote le moins pire. Voilà, donc, c'est cette discussion qui m'a donner l'idée de faire cette émission, de tenir ces quelques propos. Parce que dans la vie de ce jeune homme, il n'y avait pas beaucoup de place, hein, pas beaucoup de place pour imaginer quoi que ce soit, pour penser à autre chose que ces 1023 euros et son logement trop cher et sa vie au quotidien pas facile. Donc pas de place pour grand chose d'autre que d'affronter donc ce quotidien. Et sans doute aurait-il lu cette citation fort célèbre donc d'Étienne de la Boétie, et je lui aurais dit « Mais sois donc résolu à ne plus servir, et tu seras libre », qui m'aurait regardé donc certainement avec des grands yeux, et m'aurait-il sans doute reparlé de ces 1023 euros bruts, et de savoir comment il allait pouvoir croûter pendant les derniers jours qui lui restaient à tenir pour atteindre la fin du mois. Donc oui, les citations, souvent, il y a quelque chose qui, du moins chez certains individus, font vibrer quelque chose, et après, il y a la confrontation au réel, à la réalité, donc, de la vie. Et ça me remettait en mémoire une autre discussion avec un vieux camarade anard que j'ai perdu de vue, et vu son âge, je pense que maintenant il n'est plus parmi nous, avec qui j'avais eu une discussion un petit peu similaire, et il me disait moi j'ai connu mes parents qui ont vécu une vie de prolo très très dure, avec des conditions d'exploitation très très dures, et pourtant ils se révoltaient, et pourtant ils aspiraient à un autre projet de société, comme à l'époque d'autres prolétaires anarchistes. Et pour lui, c'était une interrogation, effectivement, pourquoi ne se révolte-t-on pas ? Pourquoi ce désir de lutter, de se révolter, cette colère qui peut s'exprimer, et même pourquoi pas ce désir de changer la société, ce désir de révolution, ce désir d'une société libre, ce désir d'une société égalitaire, eh bien, n'atteint-elle pas les individus, et bien sûr essentiellement les individus concernés le plus, à savoir ceux qui, dans cette société, vivent au quotidien l'exclusion, la domination, l'exploitation par le travail. Donc cette citation, c'est vrai qu'elle est forte. Soyez donc résolus à ne plus servir et vous serez libre. Sauf que, je le disais tout à l'heure, une fois qu'on l'a dit, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et là encore, ça me renvoie à un autre souvenir que je vous avais évoqué. C'était celle, j'étais alors jeune ouvrier, j'avais un copain à moi qui était cheminot, et qui était animé par des sentiments anarchistes et révolutionnaires. Je crois même qu'il militait en tant que cheminot. dans un collectif libertaire, anarchiste, qui était lié à la Fédération anarchiste et qui s'appelait Voix Libre et qui regroupait d'ailleurs des cheminots anarchistes, tout simplement. Et il avait toujours son marqueur dans la poche, je vous en avais parlé, hein. Et il écrivait, il aimait bien taguer sur les murs, « Esclave, cours, ton patron t'attend ». Et ce qui était paradoxal, c'est qu'il écrivait ça le matin de bonne heure en partant au boulot, et le soir quand il rentrait donc du boulot. Alors, tout le monde peut remarquer la contradiction, on peut remarquer aussi l'aspiration. L'aspiration a provoqué la révolte. La révolte contre une situation d'exploitation, de domination. Et en même temps, pour lui, le réveil sonnait tous les matins. Et tous les matins, il se levait, tout animé de cette colère-là, mais tout animé aussi de la nécessité de y aller au turbin, de y aller au chagrin, de y aller dans la tôle. Et voilà, donc il y a des citations, comme ça, qui traduisent donc peut-être une aspiration, mais qui renvoie aussi à des contradictions et à toute la complexité de cette société. Dans cette société, on est bien évidemment des individus. On peut être aussi une classe. Quand je dis une classe, c'est une classe au sens large, à savoir la classe des opprimés, la classe des dominés, la classe de ceux qui n'ont pas choisi leur vie. Donc, en ce sens-là, effectivement, une classe, effectivement. Et dans cette... comme individu, donc, on peut essayer de s'en sortir. C'est ce que tout le monde essaye de faire par des chemins divers et variés. On peut s'en sortir par le refus du travail salarié, par exemple, tenter le choix d'une vie plus libre, même si cette liberté s'accompagne de contraintes énormes. Ça peut être le choix, je ne sais pas, d'aller vivre en communauté, de tenter des alternatives, etc. Bref, tout le monde essaye de donner un sens à sa vie, et c'est bien normal. Et ça relève d'un choix individuel, parfois collectif quand c'est un projet, en tout cas quelque chose donc de tout à fait légitime. En même temps, ce qui m'intéresse moi comme anarchiste, c'est l'aspect collectif. Au-delà des choix et solutions individuelles, ce qu'il y a de collectif et ce qu'il y a comme solution collective. Et quand on parle solution collective, on se rend compte, et c'est compliqué, que on est avec son individualité, certes, mais on est l'un dans une totalité. Et quand on a conscience de cette totalité là, on se rend compte que cette totalité là, cette force collective potentielle, qui est la seule solution pour aller vers un soulèvement, une révolte, une révolution, fait que notre sort est lié à la collectivité, à savoir que tout autant qu'on soit individu, et on l'est, on est aussi collectif, et on est face à ces mystères dans les sociétés, qui fait que parfois des mouvements se dessinent, des mouvements s'amplifient, des mouvements se radicalisent, ils deviennent insurrection, ils deviennent révolution, mais on n'en comprend pas forcément tous les ressorts de cela. À savoir que il y a des circonstances à un moment donné qui permettent, qui autorisent, qui favorisent effectivement une certaine radicalité, une certaine évolution des événements dans un sens qui est le nôtre, c'est-à-dire un sens anti-autoritaire, un sens libertaire, sans que nous en ayons été un acteur déterminant. mais tout simplement un acteur au milieu d'autres acteurs. Et je trouve que ça questionne beaucoup, en réalité. On va écouter un petit peu de musique avec LPDB. LPDB, c'est un groupe, ça veut dire la promesse du bonheur. On les écoute quelques instants et on se retrouve après.
Je veux peindre de l'eau, il y a le verre à eau. Pour ce qui est très mouillé, il y a le verre trempé. Si c'est pour les embruns, il y a le verre marin. Mais pour ce qui est du vermeil, je le garde pour la laitière. Mais pour ce qui est du vermeil, je le garde pour la laitière. Pour tout ce qui est rond, il y a le verre ballon. Si c'est plus pour souffler, il y a le verre soufflé. Si c'est pour l'hémisphère, il y a le verre de terre. Dans le bois est foutu, il n'y a plus que le verre. Quand le bois est foutu, il n'y a plus que le verre moulu. Pour repeindre les haltères, j'ai le verre solitaire. Pour ce qui est chez moi, je prends du verre à soi. Pour le balouche à Suresnes, je prends le verre Suresnes. Pour Pénélope, je ruse, je prends plutôt du verre à Cruse. Pour Pénélope, je ruse, je prends plutôt du verre à Cruse. La peinture, c'est mon métier, mais j'arrive pas à l'exercer. J'ai que tableau plein de couleurs pourrait suffire à mon bonheur. Pourtant, je suis jamais content, il manque toujours un élément. Je vais pas vous faire un dessin. Il reste le verre à moitié peint. Pour peindre le grillage, j'ai bien mon verre rouillage. Mais pour peindre des chaînes, je préfère le verre bretonne. Pour peindre les condés, j'ai du verre balisé. J'ai un mot vertueux, pas fait pour les empoisonneuses. J'ai un mot vertueux, pas fait pour les empoisonneuses. Les Allemands sur la carte. Je l'ai peint en vert mat. Les fantassins légers sont peints en vert à pied. Et pour le BMC, j'ai un beau verre au nez. Pour les soldats à terre, il n'y a plus que le verre à bière. Pour les soldats à terre, il n'y a plus que le verre à bière. Pour ce qui est rituel, je peins en vert missel. Ou bien en protestant, je peins en vert galant. Pas catholique, en verset coranique. Je peux croquer les pommes vu que j'ai un verre à l'ange. Je peux croquer les pommes vu que j'ai un verre à l'ange. La peinture c'est mon métier. Et enfin ça y est, j'ai trouvé ce qui manquait à mon bonheur. Pour que je sois à la hauteur, ce fut une brusque épiphanie qui concernait un simple fruit. Pom 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 pom. Je peux croquer les pommes vu que j'ai un verre à l'ange. Je peux croquer les pommes depuis que j'ai un verre à l'ange. Je peux croquer les pommes depuis que j'ai un verre à l'ange. Je peux croquer les pommes depuis que j'ai un verre à l'ange.
Petit chef, petit larbin du patron. Petit chef, le capital nous vaincrons. Petit chef, petit larbin du patron. Petit chef, gare à la révolution. Exécutant besogneux des mesures managériales pour rentabiliser à tout prix la masse salariale. Pur produit de la domination réelle du capital pour extorquer toujours plus de plus-value sur notre travail. Tes seules compétences sont tes complexes de supériorité pour laisser libre cours à tes petites crises d'autorité. Ton degré d'aliénation est proche de celui d'un goret. J'ai connu des poules d'élevage qui avaient plus d'humanité. Petit chef, petit larbin du patron. Petit chef, le capital nous vaincrons. Petit chef, petit larbin du patron. Petit chef, car à la révolution. Ton ambition n'a d'égal que ton ignorance crasse de l'histoire des sociétés qui n'est qu'histoire de lutte de classe. Organisée en comité lors d'assemblée générale, nous déciderons la grève qui mettra ce système à mal. La hiérarchie qui découle de la propriété privée sera remplacé par la gratuité généralisée. Les bouffons dans ton genre ne seront plus d'aucune utilité à part nettoyer nos merdes et nous servir le thé. Petit chef, petit larbin du patron. Petit chef, le capital nous vaincrons. Petit chef, petit larbin du patron. Petit chef, car à la révolution. Issus des tranches les plus réactionnaires du prolétariat, au même titre que les flics, les vigiles et les soldats, héritiers du contremaître et descendants du capot, tant qu'il y aura des marchands, il y aura ce genre de salauds. Petits serviteurs zélés de la caste patronale, tu es fier d'être le traître de ta propre classe sociale. Mais débarrassé de tes maîtres, il ne restera plus rien de ta méprisable petite existence de N plus 1. Petit chef, petit larbin du patron. Petit chef, le capital nous vaincrons. Petit chef, petit larbin du patron. Petit chef, car à la révolution.
Voilà, on a passé un petit moment avec la promesse du bonheur, LPDB. Alors je disais, on reste des, bah oui, toujours des individus, et en fonction de ce qu'on est, on réagit. Alors dans ce « on », j'exclus évidemment des gens dont je ne parle pas ce matin, c'est tous ceux qui vont jouer le jeu de cette société, c'est-à-dire le désir de parvenir, le désir de jouir de ses privilèges, d'écraser les autres. Bien évidemment, dans ce « on », je parle d'autres personnes. Et dans ce « on », il y a des jeux, c'est-à-dire des individus qui réagissent en fonction de ce qu'ils sont, de leur histoire, de leur parcours, etc. Donc je disais donc, ce qui m'intéresse en tant que réflexion, c'est effectivement comment un jour, collectivement, on pourra s'en sortir. Et qu'en attendant, chacun essaye de vivre, tout simplement, et de tirer, s'il le peut, des moments de bonheur de son existence. Ce qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde, bien évidemment. Mais voilà, on est des individus et on réagit en fonction d'un parcours et de ce qui fait notre individualité. Par rapport au sentiment de révolte, d'être en colère par rapport à tout ce qui nous est porté à notre connaissance ou tout ce que nous pouvons vivre. Je discutais récemment avec une amie qui me disait qu'elle, face à ce déversement médiatique qu'on connaît tous, les catastrophes, les guerres, et voilà, toutes ces informations là, elle me disait, ben moi je suis une véritable éponge, j'absorbe tout ça et j'en peux plus, ça me fait péter les plombs quand j'écoute les infos pendant un quart d'heure, j'en peux plus, je suis une véritable éponge, j'absorbe tout ça au plus profond de moi, donc solution, j'écoute plus les infos. Bah, je considère que c'est normal hein, de vouloir se protéger, hein, bien sûr, face à ce qu'on ressent comme une agression, et ce qui se passe dans le monde est une agression permanente, ce qu'on peut vivre au quotidien aussi est une agression permanente, et donc selon ce qu'on est, on se protège donc comme on peut. Et puis je le disais, comme individu aussi, on cherche tous les échappatoires possibles, là aussi, pour en prendre le moins possible dans la gueule et essayer de vivre au mieux sa vie, tout simplement. Et donc des solutions individuelles, il en existe bien sûr, et je le disais, c'est légitime aussi. Après, j'ai précisé dans ce « on » évidemment une clause d'exclusion. Et pour revenir à la citation de la Boétie, donc je le rappelle, « Soyez donc résolus à ne plus servir et vous serez libres ». Dans cette injonction, puisque c'est une injonction, j'y vois aussi un souci. J'y vois aussi autre chose de possible qui me renvoie à une autre injonction qui est celle qui consiste à dire, et qui est le leitmotiv, on va dire, de la méritocratie républicaine dans cette société-là, à savoir quand on veut, on peut. Alors la citation de Étienne de la Boétie vise effectivement à mettre à bas un système de domination, hein, c'est un point. La méritocratie invite, elle, à s'inclure, au contraire, complètement dans la société, dans la promotion sociale, dans le désir de parvenir. Mais en même temps, ces deux injonctions, même si elles désignent quelque chose de différent, reposent sur, je pense, le fait de dire « si tu n'y arrives pas, eh bien, c'est ta faute ». Si tu n'y arrives pas dans la société capitaliste, c'est ta faute. Hein. Si tu veux, tu peux. Si on veut, on peut. Et regardez, mais je vais pas refaire l'émission de la semaine dernière, et on vous montre toujours des exemples de gens qui ne sont partis de rien, comme on dit, et qui ont su gravir tous les échelons de la hiérarchie sociale pour arriver au sommet de celle-ci. Donc ça veut dire, quand on veut, on peut. Et dans l'injonction, citation de Étienne de la Boétie, eh bien, je trouve que là aussi, il y a un peu de ce « on veut, on peut » qui renvoie les gens à le fait que s'ils pouvaient, eh bien, ils pourraient renverser ce système et en promouvoir un autre qui soit juste, qui soit donc égalitaire. Mais ça renvoie à l'individu et à toute la contradiction que j'énonçais tout à l'heure entre l'individu et le collectif, à savoir que on ressent à ce moment-là, et c'est ce que je disais, n'importe qui subit une société de domination et d'exploitation dans cette société-là, une fois que il a lu la citation de Étienne de la Boétie, même si je le disais tout à l'heure, même si ça fait vibrer quelque chose, il se dit alors ? Et alors, je me lève le matin pour aller bosser, et alors, je suis au chômage, et alors, je survis de mes minima sociaux, je survis de mon minima RSA, mais si tu peux, tu veux, révolte-toi. Hein, soyez donc résolus à ne plus servir, et vous serez libre. Et là, on plonge un petit peu eh bien, dans toute la complexité donc, d'une société. Pas si complexe que ça, d'ailleurs, puisqu'il y a dans cette société-là donc, des classes. Ça, c'est un fait reconnu, je pense, revendiqué. Hein, la société de classe, d'ailleurs, est surtout revendiquée par ceux qui dominent, à savoir la classe bourgeoise. Cette classe-là s'affirme en tant que classe bourgeoise. Elle a ses repères, elle a ses codes, elle transmet, elle forme les générations futures de la bourgeoisie. Elle a ses lieux, elle a sa culture, etc. Bref, elle existe en tant que classe, au sens d'ailleurs où Karl Marx parlait donc de la classe, tout simplement. Cette classe, la bourgeoisie, elle existe bel et bien. Bref, je ferme cette parenthèse. Et donc, il y a la classe que j'appelais tout à l'heure des dominés et des exploités dans cette société-là, la classe des laissés pour compte, la classe de ceux qui survivent, la classe de ceux qui perdent leur boulot, leur vie au boulot tous les jours. Et cette classe-là, on pourrait penser que logiquement, elle pourrait être habitée par un désir, le désir de mettre fin à cette société de classe, d'abattre la société de classe pour une société inégalitaire. Voilà, seulement les choses sont pas si simples et chacun le mesure, tout habité qu'il soit par une révolte individuelle, quand il plonge dans le monde qui l'entoure, que ce soit le monde familial, le monde relationnel, même celui des amis, etc., le monde professionnel aussi, on se rencontre au sein d'une même classe de la diversité des vécus, de la diversité des appréciations, de la diversité des ressentis, des uns et des autres. Et on se dit qu'à partir de là, faire classe, eh bien, c'est pas si facile que ça, c'est pas si évident que soit, si tant est qu'en plus, on commence à mettre en avant d'autres idéaux, aspirations que l'on peut porter. Si par exemple on combat le sexisme, si on combat le racisme, si on combat l'homophobie, la transphobie, etc., eh bien on se rend compte qu'au sein de la classe, il y a d'autres divisions aussi qui sont là. Et là encore, les choses nous apparaissent autrement plus compliquées. Et le slogan, citation de Étienne de la Boétie, nous paraît quelque chose de très très lointain, dans la mesure où on est face à des contradictions, des problèmes, des conflits qu'il faut donc résoudre. Donc c'est pas évident, et des fois j'ai cette réflexion là lorsque je suis par exemple dans la rue chez moi, dans ma banlieue, et que je vois tous ces gens qui m'entourent, les gens qui marchent dans la rue, les gens qui sont assis à côté de moi, une terrasse de café, etc., qui sont des gens de conditions précaires, qui sont des gens de conditions modestes, ce qu'on appelle les prolos, hein, voilà. Et je regarde ces gens, et au bout d'un moment, je me dis, mais qui ils sont, ces gens ? Au-delà du partage d'un certain nombre de choses qui relèvent d'une réalité sociale. Qui sont-ils, ces gens-là ? À quoi aspirent-ils ? Qu'est-ce que leur vie ? De quoi rêvent-ils ? À quoi rêvent-ils ? On sombre dans une dimension qui est vertigineuse. C'est celle de toute la complexité de la société. Même si, je le dis, dans la société, il y a des choses évidentes, réelles. L'État, le capital, la société de classe, les inégalités. Tout cela est quelque chose de facilement palpable, identifiable, surtout quand on le vit. Voilà, je trouve que ça plonge dans quelque chose d'assez vertigineux. aussi vertigineux que ce que j'avais énoncé une fois dans l'émission où je disais que je contemplais la ville la nuit avec, et je parle de ma ville en banlieue, et avec les immeubles, toutes ces petites lumières allumées, et je me disais derrière chacune de ces lumières, il y a une personne ou des personnes, il y a une famille. Et là encore, je me disais, mais qui sont-ils ces gens? Qu'est-ce que leur vécu? Et voilà, quand on commence à rentrer dans ce genre de questionnement, je trouve que c'est assez vertigineux, parce que on est là, soi-même, avec ses idéaux, ces idéaux libertaires que l'on partage avec des gens avec qui on s'est associé. Mais quelque part, ça renvoie non pas à un sentiment d'impuissance, puisqu'il est toujours possible d'agir là où on est, même si c'est une implication qui va avoir que peu d'emprise sur ce qui est globalement la société. Mais cette possibilité existe. Mais ça nous renvoie au chemin à parcourir, un chemin très très long et à cette difficulté. Quand on est libertaire aujourd'hui, anarchiste dans cette société-là, et qu'on est un mouvement pour l'heure effectivement minoritaire, cette sensation parfois d'isolement, même si on a des amis, même si on a des complices, bien sûr, mais à cette sensation d'isolement, et à cette sensation aussi du chemin qu'il nous reste à parcourir pour arriver au but qui est le nôtre, c'est-à-dire une révolution sociale et libertaire. On va écouter un petit peu de musique et puis se retrouver dans quelques instants.
Cette voix dégueulée sur les ondes, cette voix venue tout droit du territoire des ombres, cette voix immonde qui prend du poids et des galons, qui sait comment se faire mielleuse pour séduire dans les salons. Cette voix aux multiples gorges qui se décharge, habitée d'une haine si virulente qu'elle en ébarge. Du cadre à l'ouvrier jusqu'au commissaire, cette langue de vipère s'accommode très bien de la misère. N'hésitons pas à le répéter, l'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Non, pas question de garder le silence, cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Ici ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation, comment rester les bras croisés? Cette voix c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal, mon identité ne sera jamais nationale. Cette voix sinistre et d'humeur assassine, elle s'évertue à plonger la tête immigrée dans la bassine. Déteste ses racines, traque son taux de mélanine, reproche l'odeur de sa cuisine ou la largeur de ses narines. Le traite comme un danger, roule son nom dans la farine, ses théories sont consanguines, parle de flingue, de carabine. Défend une France en blanc ou en bleu marine, alors le port et sa portée de Gorès enlèchent les babines. N'hésitons pas à le répéter, l'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Non, pas question de garder le silence, cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Ici ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation, comment rester les bras croisés? Cette voix c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal, mon identité ne sera jamais nationale. Cette voix n'a pas de couleur comme la connerie ou l'ignorance, elle puise sa force dans la douleur, l'humiliation et les offenses. C'est l'éloquence pour nous monter les uns contre les autres, elle te rabâche en continu qu'il y a l'étranger et il y a les nôtres. Mon identité elle est plurielle, elle est changeante et heureusement, elle n'hésite pas à prendre la tangente, elle s'inspire de toute culture, s'inspire de toute étoile. Elle a les bras ouverts et considère tout homme à son égal. Mais cette voix veut me tirer vers le fond, c'est cette voix encore une fois que je combats sans rémission. Dressée contre son ordre, contre sa morale, mon identité ne sera jamais nationale. N'hésitons pas à le répéter, l'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Non, pas question de garder le silence, cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Ici ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation, comment rester les bras croisés? Cette voix c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal, mon identité ne sera jamais nationale. N'hésitons pas à le répéter, l'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Non, pas question de garder le silence, cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Ici ça pue, j'ai la nausée. Une profonde indignation, comment rester les bras croisés? Cette voix c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale. Mon identité ne sera jamais nationale.
Monsieur Roland Bolide allemand, 130 000. Travaille dans une banque du centre-ville et tu l'auras compris, le bureau de monsieur n'est pas au rez-de-chaussée, le bureau de monsieur est en hauteur. Costume sur mesure, 4 000. Il en impose dans les couloirs, parfaitement corporate. Un bel exemple de réussite, monsieur s'est fait tout seul, a bien placé ses billes et ne s'en cache pas. C'est d'ailleurs son histoire préférée. Monsieur a l'arrogance des nouveaux riches, mais dans son nouveau milieu, ça passe bien. Ça passe pour de l'ambition, il n'y a rien de mal à ça, oh non, bien au contraire. Monsieur flambe, a le teint allé en toute saison, il a la forme et s'entraîne au meilleur club de la ville. 30 000 à l'année, hors frais de fonctionnement, il en est actionnaire et voit ça comme une petite consécration. Vêtu d'un tailleur de marque italienne, 6 000, madame quant à elle ne travaille pas, mais madame est débordée. La bonne s'occupe des gosses, fait à bouffer le service et le ménage, mais madame ne s'en sort toujours pas. Faut dire que la maison est grande et madame doit la meubler. Madame peine avec la styliste que lui a conseillé sa chère voisine au gala de bienfaisance d'une marque d'ordinateur leader sur le marché. 20 000. Le soir, une fois rentré du travail, la tête pleine de réunions et de repas d'affaires harassants, pleine de cruciales décisions à prendre et de chiffres colossaux en jeu, monsieur retrouve madame. Les enfants ont fait leurs devoirs et sont couchés, il est 21h. Monsieur se sert un verre et veut se détendre. Comme d'habitude, il passe au petit salon, mais fait tomber son verre en chemin. Au bruit du verre cassé sur le marbre d'Italie, la soubrette, 600 et c'est un bon prix, sort aussitôt de la cuisine pour nettoyer ça rapidement et retourne à sa place, ni vu ni connu. À cet instant précis, il dit avec satisfaction à sa douce moitié siliconée en lui tapant les fesses. T'as vu que j'avais raison, les Éthiopiennes c'est une affaire, ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est efficace. Moralité en guise de chute, la vulgarité ne dit jamais fils de pute. Enculé ta race ou va niquer ta mère, la vraie vulgarité ne tient pas à ce vocabulaire. Elle se cache derrière de belles familles, de belles carrières, de sourires hypocrites et de bonnes manières. Tu la reconnais au ton condescendant, la vraie vulgarité se lâche comme ça, en plaisantant. Elle croit que tout lui est dû, que tout s'achète. L'argent et le pouvoir lui sont montés à la tête. Elle fait son beurre sans scrupule dans la misère. La vraie vulgarité, c'est comment s'en satisfaire. Vénale, sans complexe, elle s'étale, dégueulasse. Elle a ce mépris de classe qui fait mal. Elle est vicieuse, vieux, elle est sournoise. La vraie vulgarité, elle est bourgeoise.
La canaille, à l'instant, sur les ondes de Radio Libertaire. C'est l'émission lundi matin sur la radio de la Fédération anarchiste. Alors, le risque de tout cela, à travers tout ce que j'ai pu énoncer auparavant, et qui est une tendance, je trouve aussi, c'est l'abandon ou le repli. Je l'avais évoqué dans une émission où, dans le mouvement, j'entends mouvement libertaire bien évidemment, mais même au-delà de ce mouvement-là, chez des copains qui sont syndicalistes notamment, c'est le repli. C'est le repli, c'est l'abandon, c'est donc le découragement lié à cette sensation, à ce déferlement. Hein. J'utilisais tout à l'heure cette image du boxeur groggy, qui en a pris des coups et des coups et des coups, et qui pour l'instant a un genou par terre, ce qui ne veut pas dire qu'il ne se relèvera pas, bien évidemment. Mais cette image me paraissait donc assez juste, et j'entends donc des réactions du type « on a perdu, c'est fini, regardons autour de nous, partout, ce n'est que guerre, nationalisme, etc. » Et regardons autour de nous tous ces gens qui veulent voter à droite, qui veulent voter à l'extrême droite ou qui veulent voter tout court, pour ma part, je dirais. Et donc, ce sentiment de submersion, eh bien, invite effectivement au découragement. Et là encore, je vais revenir sur l'aspect médiatique que j'ai énoncé tout à l'heure. Je pense que ce déferlement médiatique contribue aussi, bien évidemment, à provoquer ce sentiment de submersion et, à la limite, de désarmer les gens, de les désarmer dans le sens de résister, de combattre, de lutter, de parler. Et ça se conjugue avec une réalité, qui est quand même bien, bien réelle, au-delà de ce sentiment de submersion, et qui amène effectivement au repli, ou à la tentation du repli, où cette tentation se fait jour. Et je l'entends autour de moi, souvent, trop souvent, et je la comprends par ailleurs aussi. Des camarades qui me disaient pendant des décennies, puisqu'ils avaient un certain âge, on a lutté, on a résisté, on a tenté, on a essayé de faire plein de trucs, etc. et tout, on a donné notre vie, pour ainsi dire, à un combat, à un idéal, etc. Et regardons où on en est, etc. Alors, on choisit la solution du repli. J'ai un copain moi-même et je le comprends parce que des fois j'ai cette tentation-là aussi. Lui, il s'est replié dans la littérature, il s'est replié dans la lecture, la campagne et la lecture. La lecture est un moyen d'accéder aussi à la révolte d'une certaine façon. C'est aussi, on le dit, un moment d'évasion, pourquoi pas. Mais pour lui, voilà, c'était un échappatoire, échapper à la réalité de ce monde à travers la littérature, à travers la lecture. Et des situations de repli, il y en a plein. C'est tout simplement sombrer aussi. Eh bien, dans la dépression, bien sûr, et j'ai connu des camarades qui ont sombré dans la dépression après avoir consacré tant d'énergie à un combat, après y avoir tant cru, en avoir tant espéré, qui sont sombrés, oui, dans une forme de dépression. Et puis, le repli, ça peut être aussi un repli plus stratégique, plus choisi, on va dire, à savoir, c'est se replier sur ses propres bases, c'est-à-dire quitter le champ de l'action sociale pour s'engager dans une alternative, quelle qu'elle soit, d'ailleurs, pour essayer de créer, vivre ici, là et maintenant, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs synonyme d'une totale rupture avec quelque implication sociale que ce soit. Mais voilà, il y a plein de situations de repli différentes. Et pour moi, je respecte profondément toutes les aspirations individuelles, hormis celle qui consiste à écraser son prochain, évidemment. Mais la dimension qui m'intéresse dans l'anarchisme, c'est la dimension collective. Et en moi, il y a une forte part d'individualisme aussi, bien sûr. L'anarchisme, c'est tout cela, c'est l'individu et c'est le collectif, l'individu qui doit exister, qui parle, qui pense, qui agit et qui, en s'associant avec d'autres, devient collectif et devient force potentielle révolutionnaire de changement. Donc, c'est cette dimension collective qui m'intéresse, effectivement. Et quand on a parlé souvent dans l'émission de ces fameux lascars du LEP électronique, que maintenant vous commencez à connaître, à force qu'on vous en dit et redit à leur sujet-là, qui font donc cette découverte-là pendant le mouvement étudiant lycéen de 86, eh bien, ils le disent, à un moment donné, des solutions individuelles, on pensait tous qu'on en avait, qu'on allait faire du cinéma, qu'on allait faire du théâtre, ou plein d'autres trucs, etc. et tout, et puis, à la finale, de par leur position de précaires, d'ouvriers, de futurs ouvriers dans cette société-là, eh bien, ils se disent que de solutions, il n'y en a que collectives. Et pour moi, ça reste mon centre d'intérêt principal, à savoir comment collectivement arriver donc à renverser ce système, comment arriver à changer cette société, cette société-là. Et une fois qu'on a dit tout ça, eh bien, on se rend compte qu'on est au carrefour de pas mal de choses. L'individu, avec ses forces, ses faiblesses, et quand je dis l'individu, je parle pas de tous les individus dans la société. J'ai complètement conscience qu'on est dans une société de classe. Je parle des individus dans cette classe, dominée, exploitée. Et puis donc le collectif, avec ce que je disais tout à l'heure, cette difficulté d'appréhender le collectif. Ce serait tellement facile de l'appréhender sous la forme unique de il y a une classe, il n'y a qu'une lutte des classes. Oui, la lutte des classes existe, bien sûr, et j'en parle souvent dans cette émission-là, mais cette classe aussi est divisée. Il y a de multiples divisions au sein de cette classe, au sein des opprimés, au sein des exploités dans cette société-là. Donc tout cela nous renvoie à quelque chose de complexe et devant laquelle se heurte, eh bien, effectivement, par exemple, cette citation donc de Étienne de La Boétie. Il ne s'agit pas simplement de n'être plus résolu à servir pour devenir libre, c'est infiniment plus complexe que cela. Et quand on dit que c'est plus complexe, eh bien, ça nous renvoie à plus d'humilité aussi devant la tâche à accomplir. C'est Sylvie dans l'émission qui disait, nous, en parlant du mouvement libertaire, quand on regarde la tâche à accomplir et l'objectif final qui est le nôtre, si on symbolise ça par une échelle, eh bien, on est devant le premier barreau de l'échelle qu'on n'a pas encore commencé à gravir. Alors dans l'histoire, des barreaux de l'échelle ont été franchis. Il y a eu des révolutions libertaires. Plusieurs barreaux de l'échelle ont été franchis, mais on n'a jamais été jusqu'au bout, puisque l'histoire des révolutions libertaires, c'est l'histoire d'échecs et de répression aussi. Donc on est en bas de cette échelle face à ce premier barreau. Alors on a les moyens de la gravir, cette échelle. En tout cas, on essaye de s'en donner les moyens par la pensée, par la parole, par l'acte aussi, à travers l'implication du mouvement libertaire dans les mouvements sociaux, dans les mouvements de révolte. Donc il y a des armes qui sont là, des armes critiques. Je l'évoque souvent dans l'émission, le courant libertaire est un courant dont, paradoxalement, les idées connaissent un renouveau incroyable actuellement à travers une multitude de maisons d'édition, des lieux comme la librairie Publico qui diffuse donc cette littérature libertaire et qui diffusait au-delà des librairies libertaires d'ailleurs, des radios, des sites, des journaux, des fanzines, des revues, enfin. En tout cas, voilà, cette pensée-là, ce courant-là, a une certaine vivacité. Une certaine vivacité qui est en contradiction avec la force numérique donc de ce mouvement-là dans la société. Donc ça traduit, je pense, quelque chose qui peut rejoindre le sentiment que j'énonçais tout à l'heure. À savoir que, étant souvent à la librairie Publico, je rencontre souvent des gens, effectivement, qui arrivent donc vers les idées libertaires, qui se trouvent gagnés par ce désir libertaire, qui se trouvent gagnés par eh bien, cette dynamique de la pensée libertaire, cette richesse de la pensée libertaire. Et qui se retrouve aussi devant cette réalité-là, c'est le quotidien. Et à savoir, tout acquis, tout immergé dans ces nouvelles idées que je découvre, ces idées libertaires, comment faire avec... mon réveil qui sonne à 6 heures le matin. Quelqu'un me disait, une femme me disait qu'elle avait découvert par la radio, enfin par Radio Libertaire d'ailleurs, les idées libertaires. Elle me disait qu'elle élevait seule ses enfants et elle me disait voilà, ces idées, vos idées, et je disais d'ailleurs, mais c'est les tiennes maintenant, mais elle me disait quand même, vos idées, je les partage, mais je me réveille tôt le matin, j'accompagne mes enfants à l'école, après je pars bosser, je rentre, je vais faire les courses, faut faire le repas, je suis claqué et je dors, et ainsi de suite. Et elle me disait, eh bien, là-dedans, pour moi, les idées libertaires, eh bien, ça reste effectivement une idée, ça reste un idéal. C'est pour moi une forme d'émancipation, effectivement, intellectuelle, mais je reste enfermé dans ma condition, sociale. Et je pense que j'énonce là aussi une réalité. Et je pense que, effectivement, eh bien, la dureté de ce monde, la dureté du vécu des uns et des autres est une réalité à prendre en compte qui fait que, eh bien, lorsque l'on est gagné à un idéal, eh bien, ensuite, c'est la réalité de la vie qui te cogne sur la gueule, on va dire. Et ton idéal, pour l'heure, ne reste qu'un idéal. Alors, bien sûr, il peut y avoir, tu peux de temps en temps, au boulot, si tu le peux, participer à une grève, tu peux participer à une manif de temps en temps, assister à une réunion publique tenue par les libertaires et t'impliquer en fonction de tes possibilités. Mais par rapport à l'idéal, le but libertaire, eh bien, effectivement, il y a cette sensation d'être devant le premier barreau de l'échelle. Voilà, je ne dis pas ça pour être pessimiste, hein, au contraire, je pense qu'il faut être réaliste, savoir où on en est exactement en tant que mouvement. Et quand j'énonçais tout à l'heure, au sein d'une classe, toutes ces divisions, eh bien, au niveau du mouvement libertaire, c'est encore effectivement la plus compliquée. Puisque le mouvement libertaire n'est pas un mouvement qui est figé, qui suit une doctrine dogmatique, qui suit des idéologues, c'est pas un parti, c'est pas des partis avec ses chefs, avec ses dirigeants, avec une ligne politique qui est élaborée par un parti et qui appelle donc au suivisme. C'est des individus, bien sûr, même regroupés, même associés, mais qui génèrent donc eux aussi de multiples prises de position, de multiples pratiques, d'où des divergences, d'où des polémiques, d'où des affrontements. Et donc là aussi, c'est très compliqué. Mais est-ce que tout cela dit, et je sais que cela est source de découragement pour certains, cette réaction, je l'ai souvent, et je l'avais eu il n'y a pas longtemps de la part d'un auditeur qui me disait, mais pourquoi est-ce que vous unifiez pas le mouvement libertaire ? Ben, je disais parce que tout simplement il y a des différences, et je disais un des principes du mouvement libertaire et de la société à laquelle ils aspirent, c'est l'association libre des individus sur des critères d'affinité. Donc, en fonction de cela, eh bien, on se regroupe par affinité. Tous les groupes anarchistes ne fonctionnent pas de la même façon, n'ont pas les mêmes objectifs, n'ont pas les mêmes implications, ne se réfèrent pas au même courant de pensée de l'anarchisme. Ça, c'est une réalité humaine, tout simplement. Et nier cette réalité humaine, ça serait donc envisager la meilleure organisation du monde au sens du meilleur des mondes d'Aldous Huxley, c'est-à-dire quelque chose à la finale d'assez terrible et d'assez totalitaire. Donc ça aussi, il faut savoir l'affronter. Bien évidemment, on est dans un monde complexe, et on est face à cette complexité, et c'est dans ce cadre-là qu'on doit essayer de penser et d'agir. Il est 12h35, on va écouter un petit morceau de musique, et je voulais vous passer, le classique des classiques, mais ça fait plaisir malgré tout de l'écouter, bien sûr.
Goodbye, everybody. Yeah.
Voilà, il n'y a pas la qualité du studio, mais voilà, j'aime bien les enregistrements live comme ça. C'était 67, Jimi Hendrix, bien évidemment. Alors, en conclusion, j'ai essayé de démettre comme ça quelques idées et je pense que voilà, ça peut inviter beaucoup d'entre nous effectivement à réfléchir là-dessus, c'est-à-dire à ce moment où se conjugue effectivement l'individuel, le collectif, où l'on est face à ce qu'on peut faire, face à ce qu'on ne fait pas, face à ce qu'on aurait dû faire, face à ce qu'on aimerait faire, etc. Donc ça touche, je pense, individuellement, bien sûr, tout ce genre de questionnement. Enfin, en tout cas, moi, j'y réfléchis souvent, bien sûr. Quoi qu'il en soit, je disais donc, je relayais donc cette image donc d'un mouvement devant le premier barreau de l'échelle, du moins dans la situation actuelle, et que cela est dans ce contexte-là, c'est-à-dire ce contexte d'un monde, je le disais en ouverture d'émission, où on entend un petit peu partout des bruits de bottes, des appels nauséabonds au nationalisme, que dans ce contexte-là, il ne faut avoir, à mon sens, ni nostalgie d'un passé glorieux, ni nostalgie d'un âge d'or, ni désespérance non plus face à la situation actuelle, même si c'est peut-être utile de temps en temps de jeter un petit coup d'œil quand même dans le rétroviseur de l'histoire. Donc ni désespérance, ni nostalgie, mais simplement affronter la seule chose qui s'offre à nous et qu'on peut embrasser, c'est le présent et l'avenir. Je vais rappeler, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, il est moins le quart bientôt, voilà le débat auquel on vous invite, hein, bien sûr, ça sera le 15 juin, c'est donc à la librairie Publico, ça sera à partir de 16h, un film de Yann Bey qu'on va vous proposer, consacré aux violences d'État, film réalisé en 2020, qui s'intitule « À nos corps défendants ». Et dont on a dit, nous, sur notre petite affichette, que c'est le reportage sur le quotidien des policiers que vous ne verrez pas donc à la télé. Le thème, c'est le racisme dans la police, bien évidemment. Voilà, je vais vous laisser aujourd'hui, là encore, un petit peu plus tôt que d'habitude. En ce moment, j'ai du mal à calibrer l'émission. Hein. J'essaye, quand je suis seul, du moins, quand on est tous ensemble, c'est plus facile. Quand je suis seul, j'essaye de calibrer dans ma tête l'émission pour que ça fasse pile poil le temps, ou presque. Et là, je termine encore un petit peu plus tôt que prévu. Voilà, enfin, voilà, j'ai tenté de vous proposer quelques réflexions donc, autour donc, de cette citation, hein, donc, de Étienne de La Boétie. Et comment ce type de citation, ce type de désir se heurtait aux réalités, aux contradictions, et que c'était bien cela qu'il fallait donc aborder, et non pas céder, comme je disais à l'instant en conclusion, ni à la désespérance, ni à la nostalgie. À la semaine prochaine, ça va continuer sur Radio Libertaire à 14h30. Hein, ça sera la reprise en direct de nos émissions. En attendant, il y aura de la musique. Ça sera la reprise en direct de nos émissions avec Géant et son émission Onde de Choc. Au revoir, à la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous retrouver, nos émissions, mais aussi des textes, des rendez-vous, streaming, podcasts, sur notre site anarchiste.info. Au revoir. À la semaine prochaine, on se quitte avec Raymond et les Blancs-Becs.
écrasé, l'humanité tyrannisée.
La
charme d'univers carcéral représente la valeur nouvelle ordre mondial. Homme, femme et enfant dans l'appareil à triage, poste idéologique pour faire le grand nettoyage. Et tout se resserre du épris dans ses rouages. Sous coupe de menaces, tu dénonces ton entourage. C'est ça ou la prison, toujours le même chantage. Et par la compensée, en retour du cerveau, tu as pu surveiller contre de faux témoignages. Et par la compensée, en retour du carnage.
Tout le monde en vit, tout le monde a son poste, il faut agir,
réagir,
organiser la riposte contre tous les fascistes qui veulent un nouvel holocauste. Contre tous les racistes, portons à tous.
Scandale international, entreprise criminelle, domination commerciale, coalition des cartels. Panique mondiale, trafic mortel. Pour ne plus voir claquer les bombes du dos trafiquées. Contre la corruption, je suis
pour la légalisation.
Contre la prostitution, je suis
pour la légalisation.
Contre la prohibition, je suis
pour la légalisation.
Contre toutes les prisons, je suis
pour la légalisation.
C'est le meilleur placement au monde. Les banquiers font la
roue.
150 milliards de dollars représentent ce marché noir. Société fictive, l'argent recyclé. Les bourbonnais se font bronzer dans les paradis fiscaux. Les petits toxicos pour et sur farfond des cachots. De nos vies, ils font le sacrifice pour
grossir leurs bénéfices.
De nos vies, ils font le sacrifice pour grossir leurs bénéfices.
De nos vies, ils font le sacrifice pour grossir leurs bénéfices.
Hey,
tout le monde en pile, tout le monde a son poste, il faut agir,
réagir,
organiser la riposte contre tous les fascistes qui veulent un nouvel holocauste. Contre tous les racistes, chin-chin, portons un toast.
Contre tous ceux qui parlent le plus souvent pour ne rien dire, pour médire, interdire, contredire, toujours mentir. Ils veulent te voir obéir, menacent même de sévir. Ils veulent définir ton avenir, ne te laisse pas endormir. Un seul mot d'ordre,
désordre. Un seul mot d'ordre, désordre.
Un seul mot d'ordre,
désordre.
Un seul mot d'ordre,
désordre.
Toujours ton avenir, un seul mot d'ordre,
désordre.
Un seul mot d'ordre,
désordre.
Un seul mot d'ordre,
désordre.
Un seul mot d'ordre,
désordre. Le cas complice livre son peuple au carnage. Non d'assistance à personne en danger. Le pape propage sa loi du Moyen-Âge. Non d'assistance à personne en danger. Et le sida continue ses ravages. Non d'assistance à personne en danger. Son état donne un possible sevrage. Non d'assistance à personne en danger. Le plus est un vaccin mais sur nos lendemains.
Toute la semaine,
tu ne peux pas
fumer que des graines
de chute.
pas assez de
fric.
Dans ta belle carte à pointer, mais que dalle. J'avais que trois copecs en poche, je me dis bon Dieu que c'est
moche.
Car le pack de chrome vient quatre depuis, cette fois je l'ai bien dans le cul.
Hey, capital, capital, t'as fait toute la semaine. Hey, capital, t'as fait tous les mois. Capital, capital, t'as fait toute l'année. Hey, capital, capital, t'as fait toute la vie.
Ainsi bien décidé de me déraciner. Dans quel autre quartier je me suis déplacé. Pas bien pour l'embauche, j'ai dû bien m'embaumer. Car mon seul et unique c'est laissé de mourir.
Quoi fumer.
T'as fait capital, t'as fait toute la semaine. Capital, t'as fait tous les mois. T'as fait capital, t'as fait toute l'année. Capital, t'as fait toute l'année.
Me voilà devant le combat qui ne perd pas la sol. Lui me dit je suis ici,
mais ça
tu bouges pas toi.
Allez, c'est t'as que ça.
Plus tard on discutera. Je me suis bataillé la tête et je me suis
cassé là.
T'as fait toute la semaine.
T'as fait toute la semaine.
T'as fait tous les mois.
T'as fait toute l'année.
Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi.
T'aurais mis sur le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi.
T'as fait toute la semaine.
Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu n'es que des
rêves. Le spécial dédicace à l'homme qu'on appelle Tapage.
Oui, je tape au PTT. Au PTT, PTT, PTT comme un petit bébé. Toute la journée tu ne penses pas, tu ne fais que glander. Sur la pendule t'as les deux yeux complètement rivés.
Tu te fais tellement chétonner comme une taupe tigée. T'en dis si bien qu'à la fin tu rêves de te faire jeter. Alors, alors, alors.
J'ai mis les jambes à mon cou, je suis pas de teint, je suis pas fan de ces virus. T'es dingue et voici la moralité.
Quoi que l'on fasse ou que l'on tape,
tu bois la tasse, tu prends les baffes.
T'es dans la masse.
Tu bois la tasse. Tu prends les baffes.
Tout le monde a, 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 tout le monde a,